pour ceux qui lisent la grande presse, on voit des titres absolument chocs, comme ça. En un siècle, vous voyez, la médecine est passée des ombres chinoises à la visualisation du vivant, avec des images qui sont absolument somptueuses. Somptueuses. Voilà des cristaux d'une météorite tombée au Mexique en lumière fluorescente. C'est superbe, c'est une œuvre d'art, on dirait des vitraux. On dirait un vitrail. Et puis l'image scientifique repousse les limites de la connaissance. Vous voyez, on voit ça. Alors évidemment, en face, on a des iconoclastes. Vous avez Remori, vous voyez, le triomphe du fantasme sur la chair. Enfin, on peut peut-être en discuter. Et puis le crime parfait de Baudrillard. Puis toujours dans les iconoclastes, vous savez, Didier Sicard qui vient de récidiver parce qu'il avait déjà écrit un livre il y a quelques années qui s'appelait Hippocrate et le scanner. Didier Sicard est le président du comité d'éthique, du comité consultatif d'éthique. Et cette fois-ci, il récidive violemment, là, en déplorant, comme tu le disais, Alain, en déplorant la perte de cette médecine traditionnelle qui lui manque beaucoup, qui a été sa formation. Bien sûr. Alors, on en vient à ces images et à ces rapports avec le verbe. Les choses existent-elles parce qu'il y a les mots pour les décrire ? Une œuvre d'art, c'est quoi ? Faut-il avoir un langage pour faire une œuvre d'art ? C'est-à-dire des mots, une grammaire, une syntaxe ? Et pour faire des symboles, pour faire du symbole, il faut quoi ? Il faut du langage, ou il faut des mots seulement, où on peut symboliser sans mots. Alors bien sûr, je n'ai pas la compétence pour traiter de tout ça. Je rappellerai quand même que c'est dans les mots et les choses de Foucault, ce que dit Foucault des mots. Et je ferai remarquer à la fin que la fin est de moi. Là, l'image est une chose construite par l'homme. Elle est à déchiffrer comme le sont les mots, et donc l'image est probablement un langage. Encore faut-il savoir l'utiliser et le prendre. Si j'avais été vraiment à la mode, j'aurais cité Barthes plutôt que... Bon, Foucault va très bien dans cette affaire. Donc on commencera rapidement, parce que l'histoire se paraphrase en permanence. Donc je parlerai de façon brève du rapport texte-image ou verbe-image dans l'humanité et la société d'une façon générale, et après on abordera la partie qui nous intéresse vraiment et qui est la médecine. Mais je crois qu'on va retrouver les mêmes évolutions et les mêmes démarches intellectuelles et les mêmes conflits entre l'image et le verbe, que ce soit dans la société ou que ce soit en médecine. Donc, ces images, elles jouent quel rôle dans la société ? Eh bien, elles jouent un rôle historique. Elles constituent une espèce d'arrimage à l'histoire d'une façon générale, ces images. Elles viennent fixer un temps momentané dans l'évolution de toute cette humanité. Et puis, il y a incontestablement, elles ont utilisé pour jouer un rôle pédagogique. Et on va arriver, vous connaissez l'histoire, à une double sacralisation de l'image, autant si on regarde l'histoire. Alors, voilà quelques exemples, hein, vous connaissez tous ces images, bien sûr, qui sont là pour représenter, pour donner au tout venant, au commun des mortels, une idée de la représentation actualisée du monde, actualisée pour l'époque. Et sur la gauche, vous voyez le dieu Or qui représente le soleil dans cette barque qui décrit la course du soleil de l'Orient vers l'Occident. Sur la diapositive de droite, je n'ai pas de montreur, mais vous suivez, c'est l'Almageste de Ptolémée, bien sûr, au IIe siècle, hein, que vous reconnaissez avec tous ces cercles. Et puis, toute cette articulation qui est centrée sur la Terre, à ce moment-là. Et sur l'image du bas, c'est Hildegarde de Bingen, c'est sa représentation du monde avec l'œuf central qui est là et tout le développement autour. Ça, vous reconnaissez également, vous n'avez qu'à compter, il y a 7 jours, c'est donc la création, forcément, avec toutes ces étapes qui sont là. C'est la chronique de Nuremberg qui a été schématisée ici et qui a été mise en image et qui sert donc de représentation du monde. Alors, vous savez que ces images, elles sont devenues sacrées, on les a sacralisées. Et Grégoire le Grand mettait en garde Cyrénus, qui était un évêque de Marseille, en 590 ou 600 peut-être, je ne sais plus exactement. Et ce Cyrénus avait détruit toutes les images dans son église. À la suite de la grande bagarre avec les iconoclastes, il avait détruit toutes les images, et Grégoire le Grand lui faisait remarquer qu'elles avaient quand même une utilité pédagogique. Et elles se sont sacralisées. Après, vous reconnaissez ces statues-là, donc des images en trois dimensions, là, maintenant, qui apparaissent et que les gens viennent de très loin. Vous avez Sainte Foy de Conques qui est là, la Vierge Ouvrante qui est là et qui joue et un rôle absolument sacré. Et vous vous souvenez, vous voyez que la croix est devenue un crucifix. C'est la croix est maintenant absolument sacralisée dans cette histoire. Et puis, dans cette évolution historique que je parcours à la hussarde, si je peux me permettre, très rapidement, apparaît le XIVe, XVe et XVIe siècle, et puis quatre révolutions absolument essentielles concernant le rapport des images au texte et concernant la sacralisation des images. Et les images, à la suite de la découverte, de la mise au point de l'imprimerie. Je vous laisse mettre les dates, hein, si vous voulez. La découverte du Nouveau Monde, la révolution copernicienne, la réforme, tout ceci va contribuer à désacraliser complètement l'image. Voilà un exemple de... Vous reconnaissez peut-être ces magnifiques images qui sont l'œuvre d'un huguenot qui n'est jamais allé aux Amériques, qui s'appelle Théodore de Brie, qui était orfèvre et imprimeur, et qui a fait un livre absolument super sur la découverte du Nouveau Monde, uniquement par des documents qu'il avait glanés, sans jamais aller aux Amériques. En même temps, c'était un livre extrêmement polémique, parce qu'il dénonçait le comportement des Espagnols et donc des catholiques, alors que lui était huguenot, en disant « il maltraite ces Indiens qui sont des gens superbes ». Et puis on en arrive à la période actuelle, et je pense qu'il y a une deuxième sacralisation. Il y a eu la sacralisation du Moyen-Âge, et puis maintenant une autre, deuxième sacralisation de l'image sociale, cette fois-ci de l'image païenne. Et c'est le triomphe de l'image maintenant. On regarde les BD, tous les textes sont mis en BD. Céline est mis en BD, par exemple. C'est super. Proust, non, je ne sais pas, mais difficile, peut-être. Et puis, le triomphe de la télévision. Vous ne regardez plus la télévision, ce sont les écrans de télévision qui vous regardent maintenant. Et puis, la publicité avec ces images... Si vous essayez d'entrer dans Bordeaux, vous voyez des images des panneaux publicitaires absolument partout. C'est absolument... Ça vous terrorise. C'est un terrorisme de l'image sociale devant le texte. Et alors maintenant, on en vient à ce qui nous intéresse, ce pourquoi on m'a demandé de parler, qui concerne la médecine. C'est quoi la médecine? Alors, on disait au tout début, c'est probablement pas une science. Hippocrate disait que c'est un art qui associe trois acteurs à... le malade, la maladie et le médecin. Et la médecine, elle apparaît avec le début de l'humanité. La première fois que quelqu'un est allé vers un autre pour lui confier sa douleur, quelle que soit la douleur, la première fois que la chose s'est passée entre deux individus, ce rapport entre ces deux individus, ont inventé la médecine. Donc la médecine, c'est d'abord du verbe, du texte. Et c'est le rapport à l'autre. Et puis, à ceci, on ajoute de la technique. Alors, comment ça s'est fait? Quels ont été les rapports encore une fois, à travers l'histoire de la médecine. Je n'ai pas l'intention et je n'ai pas les compétences non plus pour vous faire l'histoire de la médecine. Mais on va aborder ça très rapidement. La médecine, ça d'abord, elle a été créée par Hippocrate, hein, qui a séparé ça de la philosophie. Et puis, à la suite d'Hippocrate, et puis à la suite de l'école d'Alexandrie, est apparu un terroriste, voilà, qui s'appelle Galien, qui va faire régner une terreur intellectuelle pendant tout le Moyen-Âge, jusqu'au moins au XIVe siècle. Galien, la médecine de Galien. Tout le monde citera Galien. Et puis, il est aidé dans son entreprise de terrorisme, il est aidé par l'Église, qui appuie tout et qui contribue à divulguer et à répandre toute la médecine de Galien. Alors, dans cette médecine, il y a donc d'abord des images qui sont des images pédagogiques, à visée pédagogique. Il y a même une imagerie thérapeutique, hein, c'est la litanie septiforme. Dans les épidémies de peste, on promène des images pieuses pour combattre la peste, et ça marche, disent-ils. La litanie septiforme, c'est encore Grégoire le Grand qui l'a faite en 590 autour de Rome. Alors, ces images, elles sont pédagogiques, et ici, vous avez les images qui datent du deuxième siècle, je crois, et qui sont la préparation des médicaments, et puis un patient qui est déjà trépané, on le traite pour une épilepsie, et déjà on lui ouvre la tête. Et puis, l'image de gauche, vous avez la représentation du corps, c'est dans les rugeurs du duc de Berry, autant je me souvienne, et vous avez une espèce de somatotopie zodiacale, vous voyez, avec le bélier sur la tête, dans la tête, le scorpion sur le sexe, je vous laisse... détaillé, et on retrouve ça dans la médecine indienne. Sur la droite, vous avez une image de la médecine indienne. Et puis, il y a la médecine arabe, et là, on commence à s'approcher de la représentation de la fonction, et vous avez ici deux représentations de médecine arabe qui veulent représenter le fonctionnement de la vision chez l'homme. À partir du XIVe siècle, apparaît une médecine qui devient un peu plus expérimentale et qui s'appuie un peu plus sur les données anatomiques authentiques. Et là, il faut citer l'école de Montpellier, qui est en concurrence avec celle de Paris, mais qui est moins inféodée, semble-t-il, à l'Église, et qui pratique la dissection. Et les maîtres de cette dissection, c'est... Deux auteurs qui se succèdent pendant le XIVe siècle à Montpellier. C'est sur la droite Henri de Mondeville, et puis les deux autres vues représentent Guy de Chauliac, qui est un des grands maîtres de la chirurgie à Montpellier au XIVe siècle. Et l'anatomie commence à apparaître, mais on reste quand même extrêmement approximatif. En haut, à gauche, vous reconnaissez bien sûr un dessin de Léonard de Vinci avec la représentation des cavités ventriculaires qui représentent une audace anatomique. Sur la droite, en haut, toujours les ventricules de Vésale qui s'approchent un peu plus de la vérité. En bas, à gauche, Vic d'Azyr, vous voyez, qui dessine les circonvolutions cérébrales, mais il fait ça quand même... à la louche, si je peux dire, hein. on dirait des tripes qui sont des boudins qui sont les uns sur les autres. Ça n'a absolument rien à voir ni avec la fonction ni avec la réalité. Et puis sur l'image de droite, après, à la suite du phrénologue Gall, là, vous avez Foller, le dessin et la représentation sur la surface du crâne de toutes les fonctions cérébrales qui sont là. Et pendant ce temps, bien sûr, on continue à fabriquer ce qu'on appelle la Thériaque, ce médicament absolument magique qui mélange, vous savez, 70 substances ou quelque chose comme ça, et dont l'élément essentiel est bien sûr le venin de vipère, qu'on ajoute à ça, et ça soigne absolument tout. Et dans le même temps, alors on produit des images pédagogiques qui sont très très belles. Et vous avez reconnu ici les cires de la Specola de Florence. Et vous voyez sur la gauche cette jeune personne avec un collier. Puis on enlève le couvercle et puis on va détailler toute l'anatomie comme ça. C'est absolument superbe. C'est en plus très 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 esthétique ce musée de cire. Puis à la fin on referme le couvercle. Vous voyez, on remet le collier. À partir de Bichat et jusqu'à Charcot va se mettre en place ce qu'on appelle la méthode anatomo-clinique. Et qui va absolument sacraliser le texte. Ce que j'appelle le texte, c'est ce dont parlait Alain tout à l'heure, c'est l'examen du patient. C'est ça le texte, c'est l'observation, ce qu'on va appeler l'observation clinique. Ça consiste à écouter le patient, ça consiste à l'interroger, ça consiste à l'examiner, l'inspecter, le palper, le percuter, et c'est ça la médecine. C'est ça la médecine, et ça va triompher jusqu'à Charcot. Vous connaissez Charcot, ce tableau célèbre qui déclenche, très connu dans le milieu germano-pratin, dirait-on, de l'époque, en déclenchant ces grandes crises d'épilepsie. Et sur la droite, vous avez la description, le dessin de cette grande crise d'épilepsie. Il va complètement sacraliser cette démarche médicale. Et à sa suite, vont se former tous les grands sémiologues que nous avons connus, que nous avons eu des très grands sémiologues à Bordeaux, à l'école médicale de Bordeaux, où nous avons eu, dans toutes les universités. Et cette sémiologie est restée, a été complètement sacralisée, et on peut dire, on y reviendra peut-être tout à l'heure, elle a vitrifié complètement, fossilisé complètement la pensée médicale. En 1895, comme vous le savez, là on aborde l'apparition de la vraie imagerie médicale, les ombres chinoises dont on parlait tout à l'heure, avec Röntgen. Vous avez reconnu Röntgen. Sur la droite, vous avez reconnu la main de Madame Röntgen. C'est la première radio qui a été faite. Et avec Röntgen, bien sûr, naissait l'imagerie médicale, ce qu'on appelle maintenant l'imagerie médicale. Alors, il y a eu des améliorations, si vous voyez, des angiographies. Ça apparaît avec Egas Moniz, qui a eu un prix Nobel, d'ailleurs, les angiographies apparaissent. Le jeu consistait à essayer d'imaginer ce qu'il y avait entre les artères, c'est-à-dire le tissu, mais on ne le voyait pas, bien sûr, ce tissu. Et tout l'art de celui qui interprétait ces radios consistait à imaginer que, à l'intérieur, il pouvait se passer quelque chose d'anormal, de gros, de petit, etc., entre ces artères. C'était ça, le talent du radiologue à l'époque. Alors, il y avait d'autres techniques, bien sûr. On perçait, vous voyez, un trou dans le crâne. On descendait une aiguille dans les cavités ventriculaires. On injectait du produit qui est là, qui est soit blanc, soit noir, peu importe. Mais toujours de la même façon, l'appréhension du parenchyme cérébral lui-même se faisait par déduction. Il n'y avait jamais d'image directe de ce parenchyme cérébral. Donc il y avait, depuis l'apparition de cette imagerie en 1895 jusqu'à 1972, il y avait ce que j'appelle une sacralisation du texte. C'est-à-dire que lorsqu'il y avait un désaccord entre la clinique, c'est-à-dire le texte et l'image, c'était toujours la clinique qui l'emportait. L'image avait systématiquement tort. Et la place des radiologues, d'ailleurs, était extrêmement misérable dans le corpus médical. On les appelait volontiers les photographes. Les photographes. Et encore une fois, l'imagerie médicale ne pesait d'aucun poids sur la décision finale, sauf bien sûr pour des choses évidentes qui étaient les fractures et éventuellement les atteintes pulmonaires au moment de la tuberculose. Et l'histoire va radicalement changer avec l'apparition des techniques nouvelles en 1972. Et maintenant, On va sacraliser l'image numérique. On va sacraliser l'image numérique avec quoi ? Avec quoi comme engin ? Alors, on ne va pas détailler toutes les performances, je vous le dis encore une fois, avec une énumération triomphante, mais chacun de vous ici, même s'il n'a jamais vu de scanner de sa vie, voit bien qu'il y a quelque chose d'anormal, c'est ce qui est blanc, qui est anormal. N'importe qui peut reconnaître ça, même un neurologue, même un neurochirurgien. On n'a pas besoin d'être neuroradiologue pour reconnaître qu'il y a quelque chose. Et à partir donc des années 70, Hounsfield, qui est le découvreur, le metteur au point plus exactement, parce que McCormack avait sévi avant lui, Hounsfield aura d'ailleurs le prix Nobel pour l'invention de ce truc, et c'est, ça n'a été possible, bien entendu, que parce qu'il y avait la puissance informatique qu'on pouvait mettre derrière pour traiter ces images, puisque, encore une fois, ce sont des images matricielles et on calcule avec le scanner, des densités d'absorption de rayons X, pixel par pixel, c'est-à-dire point par point, et on reconstruit ces images. Alors, au début, c'était lent, ça n'avait pas cette qualité, mais on commençait, avec le scanner, à voir le parenchyme, et non plus à regarder entre les mailles, entre la grille du poulailler, on commençait à voir les poules à l'intérieur du poulailler, si je peux ainsi m'exprimer. Et ici, je vous montre les images qui sont obtenues actuellement en routine, en utilisant une imagerie par résonance magnétique nucléaire. Vous voyez la qualité de ces images anatomiques qui sont extrêmement criantes de vérité, qui sont comme des dessins anatomiques. Et on descend très très bas. Et on peut faire des angiographies, on n'a pas besoin d'injecter des produits de contraste, on voit les vaisseaux à l'intérieur du crâne, on voit les cavités ventriculaires, on voit le parenchyme, on voit qu'il y a de la substance grise, qu'il y a de la substance blanche, on ne va pas faire un cours d'anatomie, on voit remarquablement. C'est complètement atraumatique. N'importe qui peut le faire, parce que les machines sont vendues clé en main, il suffit d'appuyer sur un bouton, et après, n'importe qui peut apprendre à les lire. Alors, bien sûr, la pathologie devient évidente. Vous voyez bien que c'est blanc d'un côté, c'est complètement anormal. Savoir ce que c'est autre chose. Ici, on voit bien, et c'est avec la résonance magnétique nucléaire, c'est le premier examen qui permet de voir directement la moelle épinière. On voit bien que cette moelle épinière, elle est coincée, vous voyez, c'est rétréci, il y a une myélopathie par cervicarthrose. Et puis, on peut faire dans le très subtil, vous voyez cette toute petite image qui est là, qui se manifeste par une petite tache noire et une tache blanche qui est là. Donc, on peut faire aussi dans le très subtil, regardez, ça c'est une épilepsie temporale, ça s'appelle une sclérose mésiale, peu importe comment ça s'appelle. C'est ce qui explique les crises d'épilepsie chez ce patient. Il a une lésion, on la met en évidence et on peut aller la traiter si cette épilepsie est rebelle à la thérapeutique médicale. Donc, cette fois-ci, tout a changé. Tout a changé avec ces images, tout a changé parce que, on a vu dans un premier temps, jusqu'à l'arrivée du scanner, que le texte avait toujours raison. Cette fois-ci, le texte a tort. Et c'est l'image qui triomphe. Vous voyez ces images, il y a là, sur ces coupes, la vue du haut, c'est une image histologique, c'est-à-dire que c'est une image qui est faite au microscope. Et les deux images du bas, ce sont des images qui sont obtenues en utilisant une imagerie par résonance magnétique nucléaire. Vous voyez, et ce sont des vues de l'hippocampe temporal. C'est le même endroit que sur l'image précédente où nous avons vu cette petite lésion. Donc on atteint une définition absolument incroyable. Donc, je vous le disais, maintenant, tout a changé. Tout a changé parce que la précision de ces techniques est telle qu'elle invalide très souvent la clinique. Mais encore une fois, cette fois-ci, lorsqu'il y a un désaccord entre le texte et l'image, on donne la vérité à l'image et non plus texte. C'est le texte qui se trompe. Donc ça, c'était les images anatomiques. Mais on fait mieux encore, pour aller dans le triomphalisme, là, on fait beaucoup mieux. On commence maintenant à explorer la fonction et on est capable d'explorer est d'activer le cerveau et d'illustrer l'activation du cerveau. On fait entendre un mot, voilà, et donc ça va activer une partie du lobe temporal. Ça va continuer, ce mot va être interprété et ça va concerner une autre aire temporale qui s'appelle l'aire de Wernicke, peu importe. Et puis après, on va demander de prononcer ce mot, de reprononcer ce mot, et là, on va exprimer le mot et on va solliciter une autre aire temporale. On peut, encore une fois, illustrer le fonctionnement du cerveau et comparer ce fonctionnement, et vous avez ici la comparaison entre des témoins qui sont sains et des dyslexiques, et vous voyez qu'il y a incontestablement des différences dans les zones d'activation. Tout se passe comme si, pour être très schématique, et pour ceux qui ne connaissent pas, encore une fois, l'imagerie fonctionnelle par résonance magnétique nucléaire, tout se passe comme si le cerveau normal fonctionnait à l'économie, et dès l'instant où il y a un désordre, les aires sollicitées s'agrandissent. Il y a davantage d'activation. Il est donc possible maintenant de faire de l'imagerie que l'on appelle de l'imagerie fonctionnelle, et ceci de façon tout à fait courante. Il s'en fait chaque semaine, deux fois par semaine dans le service, ça ne pose aucun problème. On peut prévoir quelle sera l'évolution de certaines lésions, je passe là-dessus. Et maintenant, les choses continuent à évoluer et la tendance actuelle est d'évoluer vers ce qu'on appelle l'imagerie cellulaire. C'est quoi l'imagerie cellulaire? Ça consiste à trouver un vecteur qui va se fixer électivement sur une certaine catégorie de cellules, qu'elle soit normale ou qu'elle soit pathologique. Donc ça, c'est le rôle. Et ça, ce sont des images qui ont été obtenues dans le laboratoire, qui ont été réalisées par le professeur Doucet. Et là, on a injecté à cette souris un produit qui s'appelle, qui sont des nanoparticules chargées de fer, qui sont prises, qui sont avalées par les macrophages, et ces macrophages vont aller eux-mêmes dans le cerveau pour marquer la lésion. Et sur la droite, vous avez le même produit, les mêmes produits qui sont là, qu'on appelle USPIO, qui ont été injectés, cette fois-ci non plus à des souris, mais à des patients qui présentent une sclérose en plaques. Et ceci nous donne les moyens, de caractériser l'activité des plaques de la sclérose en plaques. Et il y a toute une démarche qui se fait actuellement, qui s'appelle donc l'imagerie cellulaire ou l'imagerie moléculaire, et qui vient encore augmenter les performances de cette imagerie médicale. Alors, cette imagerie triomphante, qui encore une fois invalide le texte, elle a des dangers, parce qu'elle détecte des choses alors qu'il n'y a aucune symptomatologie, c'est-à-dire qu'elle invente des maladies, alors qu'il n'y a pas de malade. Et puis elle peut être utilisée comme preuve médicale d'abord. Vous vous plaignez de ça, mais vos images sont normales. Et vous voyez la conclusion qui s'impose. Donc vous n'avez rien. Elles peuvent être utilisées comme des preuves juridiques. L'image a montré qu'il y avait quelque chose, ou au contraire, les images ont montré qu'il n'y avait rien. Et vous savez qu'il y a des alliances très fortes entre les hommes de robe, c'est-à-dire les hommes entre les juges et les médecins, tous les deux portent des robes, et il y a très longtemps qu'ils ont fait alliance pour les expertises, et notamment les expertises psychiatriques. Et maintenant, on fait des images, et on ne tardera pas à faire de l'imagerie fonctionnelle pour dire celui-là. Non, il n'est pas fou. Il n'est pas fou, puisqu'il a un cerveau qui fonctionne normalement. Donc il y a là un danger potentiel fantastique. Et puis il y a ce que j'appelle le triomphalisme imbécile, qui consiste à, si on prend sur les images de droite qui sont de l'imagerie fonctionnelle, chez des gens qui sont déments, hein, qui commencent une démence et qui sont déments, On illustre le fonctionnement du cerveau, mais on illustre ce faisant, on ne voit pas ce que pense la personne. On regarde le cerveau, mais fort heureusement, on n'accède pas à l'âme, on n'accède pas à la conscience. Et sur la gauche, vous avez l'exemple d'un patient, c'est un volontaire sain, et on lui trouve ce qu'on appelle un angiome caverneux. Il n'est pas malade, hein. On a découvert qu'il a une bombe dans la tête, hein, ce malheureux garçon. Et je vous assure que sa vie est beaucoup moins facile qu'elle ne l'était. Quand même, il y a un élément rassurant, parce que, ça c'est un article du Monde qui est paru assez récemment, l'image ivre de lecture, où l'article consistait à dire, bien maintenant, les images, et notamment les images de BD, contribuent à faire lire des choses qui n'étaient pas lues avant. Et pour la médecine ? Eh bien, pour la médecine, je crois que la médecine, elle reste, on l'a dit au tout début, c'est d'abord du texte, c'est le rapport au patient, bien entendu. Et ça, il est tout à fait indispensable de conserver, bien sûr, ce rapport. Il est hors de question, par exemple, de mettre une IRM ici, à l'entrée, à cette porte-là, puis tous ceux qui passent la porte, ils auront une IRM, là, comme ça, et puis on dira, ah, vous n'avez pas de chance, vous avez gagné un gliome, vous, c'est une tumeur effroyable. On pourrait faire ça. Non. Il est hors de question de faire ça. C'est d'abord le patient et le contact avec le patient. Mais je pense qu'il faut élaborer, enseigner et pratiquer une nouvelle médecine. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut se rendre à l'évidence. Les images sont d'une puissance diagnostique phénoménale actuellement. Et il faut donc abandonner cette méthode anatomo-clinique que nous avons appris, et qui est encore enseigné, qui consiste à voir un patient qui se plaint d'une douleur au doigt, comme ça, une douleur radiculaire. Une douleur radiculaire, on ne dit c'est rien, on le met à l'aspirine, on lui met des anti-inflammatoires, et puis on attend, c'est ça la méthode anatomoclinique, ça va passer, il n'y a pas d'exemple, il suffit d'attendre. Et puis, il se met à avoir mal de l'autre côté. On dit, bon, on va doubler la dose. C'est probablement rien. Et puis on attend suffisamment longtemps pour avoir ce qu'on appelle un gros syndrome pyramidal avec l'extension, on décrit ça en médecine, l'extension lente et majestueuse du gros orteil, ça s'appelle le signe de Babinski. Alors là, quand on a ça, on commence à s'inquiéter et on va demander de l'imagerie. La réponse maintenant, ça n'est plus cette médecine qu'il faut enseigner, c'est une autre médecine. Et dès qu'apparaît un signe, ou un symptôme suspect, il faut faire l'imagerie. Et ensuite, il faut dialoguer avec cette imagerie et revenir à la clinique. Mais il faut utiliser cette imagerie. Il faut bien sûr se méfier extrêmement des images. On a vu toute la dangerosité de ce voyeurisme d'organes. On a vu tout le danger de ces images qui sont complètement atraumatiques et que on peut faire, on peut répéter, on peut multiplier. Donc, il faut encore une fois se méfier de ces images, mais il faut utiliser la puissance de l'outil. Et encore une fois, inventer une nouvelle médecine en sachant que cette médecine, elle doit être un peu raccourcie dans le temps quand vous pensez que les études médicales, ça dure 10 ans et que tous les 5 ans, on change de technique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que jamais la technique ne sera apprise. Et leur utilisation non plus.